Podcast Unige.
Bonjour et bienvenue sur Lifelong Learning at Unige. Je suis Raphaël Zaffran et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le docteur Michel Girardin, chargé d'enseignement au Geneva Finance Research Institute de l'Université de Genève et directeur de la session de formation continue Maîtrise des marchés financiers. Michel Girardin enseigne la macroéconomie appliquée à la finance. Les cours par vidéo sur la gestion de fortune qu'il a dirigé en 2018 se classent parmi les 5 formations les plus populaires au monde sur la plateforme de Coursera pour les Massive Open Online Courses, les MOOCs. En 2020, il a lancé avec succès une formation en ligne similaire en français à l'Université de Genève. Michel Girardin a plus de 25 ans d'expérience en tant que chef économiste et chief investment officer dans le secteur bancaire en Suisse. À ce titre, il a été conseiller pour la politique de placement des principales caisses de pension en Europe. Il est membre du conseil d'administration du International Center for Monetary and Banking Studies, dirigé par Monsieur Thomas Jordan, président de la Banque nationale suisse. En 2013, il a créé MacroGuide Sarl, une société de conseil et suivi des investissements pour les caisses de pension et les sociétés de gestion. Chroniqueur expérimenté, il a publié La Bourse et la Vie en 2012, un recueil de portraits de grands financiers. Il termine actuellement un nouvel ouvrage sur la récurrence des crises financières et les solutions pour sortir de la crise du coronavirus. Michel Girardin est titulaire d'un doctorat et un master en économie politique de l'école des HEC à l'Université de Lausanne, ainsi que d'un master en économie de la London School of Economics. Notre conversation avec Michel Girardin nous a amené à aborder les grandes tendances actuelles de la finance, l'affaire GameStop, les crypto-monnaies, mais également l'utilisation de la vidéo comme support pédagogique dans une formation et les nouvelles compétences et nouveaux métiers qui apparaissent dans le domaine de la finance. Docteur Michel Girardin, bienvenue sur le podcast Lifelong Learning à Unige.
Bonjour et merci de me recevoir.
Alors, vous avez longtemps travaillé comme chef économiste et responsable des investissements dans le secteur bancaire en Suisse et en Italie, avant de vous concentrer sur le conseil et sur l'enseignement. Quelles sont les nouvelles thématiques que vous avez vues émerger dans la pratique ces dernières années ?
Alors, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. La première, c'est l'intégration des facteurs psychologiques dans ce monde très rationnel de l'investissement. Et c'est ce qui l'a rendu, à mes yeux, beaucoup plus intéressant. Et la deuxième, c'est toute la tendance vers la numérisation, la digitalisation, la banque en ligne, les conseillers robots, l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Et est-ce que vous avez l'occasion d'intégrer ces thématiques dans votre enseignement en formation continue, par exemple ?
Oui, tout à fait. J'enseigne, que ce soit pour la formation universitaire ou la formation continue, c'est une activité à temps partiel pour moi et j'ai longtemps travaillé dans la banque comme chef économiste et stratégiste. Donc beaucoup de mes enseignements tirent aussi des exemples de la pratique. Et je continue également à exercer cette activité comme indépendant. Donc j'ai toujours des points relais avec ce qui se passe sur les marchés financiers.
Alors, dans notre dernier épisode, nous avions accueilli la prof Aline Darbelay et le docteur Adrien Alberini qui nous ont parlé de régulation et des nouvelles questions juridiques que la numérisation du secteur bancaire et de la finance pose, entre autres concernant les crypto-monnaies dont le Bitcoin, la blockchain, les banques entièrement en ligne. Quelle est votre analyse personnelle sur ces évolutions ?
Alors, pour ma part, je ne suis pas ce qu'on appelle un crypto-évangéliste qui ne jure que par les crypto-monnaies. Je pense qu'elles offrent certains avantages, mais il y a aussi des inconvénients, et ils sont nombreux. Du côté des avantages, ce que j'aime bien dans le Bitcoin, c'est que c'est une monnaie qui est dite désinflationniste. Et en cela, elle constitue une alternative intéressante aux monnaies souveraines, émises et contrôlées par les banques centrales qui, elles, sont inflationnistes potentiellement, surtout maintenant où les planches à billets tournent à plein régime pour financer la dette des États qui augmente fortement suite au Covid-19. Donc le Bitcoin a cette faculté que je trouve très attrayante d'avoir une offre qui est limitée et donc on n'a pas quelqu'un derrière qui fait tourner cette planche à billets à tout va. Et c'est ce qui permet de contrôler le danger d'inflation. Maintenant, le Bitcoin a cette faculté, les autres crypto-monnaies, pas nécessairement. Donc ça relativise déjà un peu l'avantage. Après, pour la blockchain, je pense que c'est un bon concept. Mais il faut régler le problème d'une consommation d'énergie excessive. Pour le côté banque en ligne, oui, c'est pratique, mais je trouve personnellement un peu dommage qu'on sacrifie le contact humain, et j'espère que ces robots ne vont pas complètement supplanter l'humain. Il y a d'autres problèmes aussi avec la banque en ligne. Il y a la question de la traçabilité, au sens que si vous avez des monnaies qui sont numériques et contrôlées par certaines banques centrales, elles sauront tout, elles verront tout ce que vous faites, du premier café le matin jusqu'au dernier cocktail au petit matin. On vit dans un monde. Je regardais par exemple une chose qui m'a fait bondir en Suède. Il y a des Suédois qui se font greffer sous-cutané des puces, et puis ils les utilisent comme paiement dans le train. Ils tendent leurs mains vers le contrôleur et qui scanne à travers votre peau votre billet. Donc on sait tout ce que vous faites, et pour ça, moi, je préfère quand même avoir du cash et être un peu libre de mes mouvements.
Comme on parle des nouvelles tendances, je ne puis m'empêcher de vous parler de l'affaire GameStop, dont on a beaucoup parlé récemment. J'imagine que cela a dû beaucoup intéresser vos étudiants et étudiantes, qui voient peut-être en cet événement l'émergence d'un contre-pouvoir aux géants de la finance à Wall Street. S'agit-il ici d'un tournant majeur ? Qu'en pensez-vous ?
Alors non, je ne pense pas, mais c'est un peu technique. Là, l'explication que je donne ici, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une communauté de petits investisseurs, ils étaient nombreux, et quand ils ont vu que cette action qui vend des jeux vidéo, qui a complètement raté le virage du en ligne, donc le titre en bourse de GameStop a commencé à baisser. Certains gros gérants à Wall Street ont essayé de profiter de cette baisse en vendant le titre à découvert. Et cette technique a une particularité, c'est que si vous vous trompez et que le titre, au lieu de baisser, il monte, votre position, elle augmente. Et donc, vous pouvez très facilement être pris à contre-pied. Et donc, c'est ce que tous ces petits investisseurs ont essayé de faire. Donc, prendre quelqu'un qui est short sur un titre, donc qui vend le titre à découvert, c'est le prendre à contre-pied, c'est relativement facile. Mais ce qu'il faudrait pour qu'il y ait vraiment un contre-pouvoir qui émerge, c'est qu'il faudrait pouvoir dire « je me positionne par exemple contre les géants de la bourse à Wall Street qui achètent tous ces titres comme les fameux GAFA, donc les Google, Amazon et Facebook, etc. » et en les vendant à découvert. Mais alors là, bonne chance. Donc moi, ce que je pense de l'affaire GameStop, on en a beaucoup parlé, mais c'est pas vraiment la contre-révolution. C'est une manifestation, et je pense qu'elle est saine. Il faut pouvoir, dans une réelle démocratie, qu'il y ait des voix qui s'expriment et qui affichent leur désaccord par rapport à des politiques peut-être de superpuissants qui jouent avec des grosses sommes d'argent. Mais ce n'est pas l'affaire GameStop qui va permettre cette contre-révolution.
Alors, vous dirigez donc la session de formation continue maîtrise des marchés financiers à l'UNIJ. Parlez-nous un peu des débuts de ce projet.
Alors, il a commencé, en fait, j'ai eu un contact avec la Fédération des entreprises romandes qui a identifié un besoin de donner une formation en finance à ceux qui n'ont pas eu la chance de l'étudier, et en particulier dans le monde de la prévoyance. Parce que c'est un monde où vous pouvez être amené, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez comme un traducteur-interprète. Il y a une association qui regroupe tous les traducteurs-interprètes ici à Genève ou en Suisse. Et puis, il faut gérer la caisse de pension. Mais vous n'avez pas une formation en finance. Donc, OK, vous allez donner un mandat à une banque qui va gérer vos avoirs pour votre retraite. Mais quand les banquiers vont venir vous expliquer ce qu'ils ont fait ou pas fait, souvent, ce que j'avais comme retour, c'est que les gens disaient « on aimerait bien comprendre ce que le banquier nous raconte et pouvoir lui poser des questions peut-être un peu plus ciblées pour expliquer pourquoi est-ce que la performance n'est pas à la hauteur de nos attentes ». Et donc, voilà, le besoin est parti de là. Et après, on a choisi un format qui convient à des gens qui travaillent et qui n'ont pas toujours la possibilité de se libérer, de venir les week-ends ou en soirée sur les bancs de l'université pour suivre une formation. Donc on a opté pour le format par vidéo.
Donc, si je comprends bien, c'est donc l'idée, c'était de faire une session pour un public cible non spécialiste, finalement.
Voilà, oui, c'est exactement ça. C'est d'offrir la possibilité à des gens qui n'ont pas étudié la finance, mais qui s'y intéressent pour toutes sortes de raisons. Alors, au début, c'était le monde de la prévoyance, mais après, très vite, on a vu à partir du moment où cette formation était disponible en ligne, on a toutes sortes de profils de gens qui leur point commun. C'est que ça les intéresse, en fait. Ils sont intéressés à comprendre le monde de la finance, soit parce qu'ils y travaillent, ou ils s'apprêtent à y travailler, ou ils sont en transition de carrière, ou alors ils veulent gérer leurs propres avoirs, ou mieux comprendre ce que leur raconte leur banquier, etc., etc.
Dans ce podcast, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est construction et scénarisation pédagogique. Comment avez-vous construit votre session pour amener les participants et les participantes à ces compétences visées finalement, et à quelles compétences visées spécifiquement ?
Alors, pour ma part, j'aime bien raconter des histoires. Et ces histoires ont souvent trait à mon vécu, mon passé de banquier. J'aime bien utiliser des allégories. Je parle par exemple je vous donne un exemple, la ménagerie de la finance. Donc, j'ai constaté qu'en fait, en finance, on utilise beaucoup les animaux. Les images les plus connues sont celles du taureau et de l'ours. Le taureau symbolise la hausse, l'ours la baisse. Mais il y en a d'autres, il y a les faucons, il y a les colombes, il y a même la chouette maintenant. Christine Lagarde, la nouvelle présidente de la Banque Centrale Européenne, dit « Moi, je ne serai ni faucon, ni colombe dans la Banque Centrale, je serai une chouette, symbole de la sagesse. » Donc, il y a toutes sortes d'images qu'on peut utiliser comme ça et qui ont l'idée que l'étudiant va mieux comprendre et mémoriser surtout avec l'utilisation des allégories. J'utilise par exemple une illustration avec le champagne et le mousseux. Je compare le prix du champagne au prix du mousseux pour expliquer les bulles, les excès sur les marchés financiers. Et ça marche. Après, les gens, les étudiants, ils me revoient des années après, ils me disent « Ah ouais, le champagne, le mousseux, là, c'était génial, l'exemple et tout. » Et voilà. Ou alors, j'ai quelque chose qui marche bien aussi, que j'ai mis sur la vidéo du cours ici. J'utilise une règle avec des verres d'eau posés en équilibre sur cette règle pour expliquer un concept qui est très technique, mais qui peut être vulgarisé de cette manière, qui est le concept de duration d'une obligation.
Et pour revenir aux compétences visées, qu'est-ce que vous souhaitez que les participants acquièrent comme savoir ou comme savoir-faire en particulier via cette session ?
Alors, c'est fonction un peu de chacun de ses objectifs propres, mais en gros, je dirais que la capacité de lire, par exemple, les pages économiques et financières d'un journal. Quand on sort du cours, les étudiants me disent voilà, maintenant je peux parfaitement comprendre ce qui est dit dans ces journaux, l'actualité économique et financière, pour moi l'objectif est atteint, et après être mieux à même d'intégrer leur profession, leur travail, que ce soit dans le domaine de la finance ou autre, si c'est purement au niveau personnel pour gérer leur épargne.
Et je ne sais pas s'il y a un profil type de vos participants. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez été peut-être parfois surpris par les personnes qui ont finalement postulé pour la session. Quelles sont leurs attentes ? C'est des gens qui souhaitent, par exemple, mieux comprendre les principes de la finance. Est-ce que vous avez des exemples de profils type des gens qui ont participé à la session jusqu'à présent ?
Oui, alors il y a pas mal de gens qui travaillent, par exemple, dans des sociétés de gestion. Mais qui ne sont pas ce qu'on appelle au front, ce ne sont pas des conseillers en clientèle ou des gérants de fonds, de produits financiers qui, eux, ont déjà une bonne formation en finance, mais qui vont être, par exemple, des assistants de gestion ou des personnes qui travaillent dans un département juridique. Donc, leur employeur est quelqu'un, c'est une banque, par exemple, ou une société de gestion financière, mais eux-mêmes ne pratiquent pas véritablement un métier qui est en lien direct avec ce qui est enseigné dans ce cours, mais ils aimeraient voilà, s'imprégner de tous ces concepts pour que lorsqu'on lui dit « Ah, tu travailles dans une banque », et oui, qu'est-ce que tu penses de l'affaire GameStop? Ben, ils aient un avis, quoi. Ils puissent exprimer quelque chose, ou le hedge fund qui a explosé récemment, tu as vu, Crédit Suisse, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc ils aimeraient avoir ce confort de pouvoir mieux expliquer plutôt que de dire, ouais, tu sais, je travaille dans une banque, mais je suis au service juridique ou je suis au service informatique et je ne comprends pas vraiment tous ces mécanismes.
Alors, j'aimerais bien rentrer encore plus dans le contenu. Dans une récente vidéo publiée dans le cadre de la communication autour de votre formation, il est question de 3 règles d'or pour bien gérer nos placements financiers. Pourriez-nous peut-être les énoncer pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de visionner la vidéo ?
Ah oui, alors effectivement, j'ai résumé ces 3 règles sous l'acronyme de KO, et en précisant que c'était pas qu'on était KO parce qu'on avait réalisé une mauvaise performance sur ces investissements. Non, c'est CAO, CAO pour comprendre, anticiper et oublier. Alors la première règle d'or, je dis il faut être à même de comprendre pourquoi est-ce qu'on réalise un investissement. Et le meilleur moyen de savoir si on l'a compris, c'est de l'expliquer à son entourage. Si on n'est pas à même de pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on a investi dans le Bitcoin à son entourage ou dans Nestlé ou L'Oréal ou GameStop, eh bien, il faut oublier. Il faut être vraiment à même de comprendre pourquoi est-ce qu'on investit dans telle ou telle société ou tel actif financier. Anticiper. Eh bien, il faut regarder devant. Il ne faut pas analyser la performance passée. Il ne faut pas se focaliser sur la performance passée. Il faut regarder la performance future. Donc, c'est important. Et la troisième règle d'or qui est liée à celle-ci, c'est celle d'oublier, en fait, la performance passée. Oublier le prix auquel on a acheté un titre ou une monnaie ou un actif financier, quel qu'il soit. Parce qu'on a trop souvent tendance à se calquer sur la performance réalisée pour décider de vendre, par exemple. Très fréquemment, j'entends des gens qui me disent « Ah, j'ai acheté le titre XYZ, je l'ai acheté à 100, maintenant on est à 130, je gagne 30%, je vends comme ça, hop, j'encaisse les 30%. » Je dis « Oui, d'accord, tu vends, mais qu'est-ce que tu fais avec ces liquidités que tu as ?» Bah, je vais les investir sur un titre qui n'a peut-être pas aussi bien marché. Et en ce faisant, on appauvrit en fait peut-être la qualité de son portefeuille. Et je dis, il vaut beaucoup. Moi, quand je gère mes investissements, il y a une colonne que j'efface tout de suite de ma mémoire, c'est la colonne prix d'achat. Je ne veux pas me laisser guider dans mes décisions d'acheter ou de vendre. En fonction de ce prix. Parce qu'il y a un autre biais très important que j'appelle le biais du pas vendu, pas perdu. C'est que si vous achetez à 100, le titre monte à 130, d'accord, ok, vous allez peut-être le vendre. Mais après, admettons qu'il redescende, il passe à 120, 110, 100, et puis tout d'un coup, il passe sous la barre des 100, donc sous votre prix d'achat. Là, en général, les gens, ils se bloquent et ils disent « Ouh, maintenant, je ne peux pas vendre parce que je suis sous mon prix d'achat ». Et je dis, et pourquoi tu ne peux pas vendre ? Bien sûr que tu peux vendre. De toute façon, c'est une perte. La différence, si tu es à 90 et que tu ne vends pas, c'est que c'est une perte non réalisée. Donc voilà, ce sont mes 3 règles d'or, mais je donne plus de détails, évidemment, dans les cours.
Alors la vidéo dans laquelle vous énoncez ces 3 règles d'or est très courte et a une fonction finalement de teaser. Mais dans le cadre de votre formation, vous avez réellement opté pour un format d'enseignement entièrement en ligne, avec des cours principalement par vidéo. Au fond, qu'est-ce qui vous plaît dans la vidéo comme support pédagogique ?
Alors, déjà, pour parler pédagogie, il y a une chose c'est que je dois dire, c'est que bah, j'aime enseigner. Alors déjà, ça, c'est communiquer. Donc, oui, pour moi, c'est une condition nécessaire, peut-être pas suffisante, mais en tout cas nécessaire pour faire des présentations qui sont appréciées des étudiants. Alors, la vidéo, elle permet de donner des messages concis. Les vidéos, en l'occurrence, de cette formation, elles font en moyenne 7 minutes. Ces informations ça met du temps hein, pour les faire, ces vidéos. On a passé plusieurs mois, donc on délivre un message qui est extrêmement succinct, formaté, précis. Et puis, on coupe tous les E, les A et les A, et les hésitations. Et puis, après, on complète ces informations par des rendez-vous mensuels où on fait des points avec l'actualité. Voilà. Et donc, la vidéo, elle permet aussi une diffusion de masse.
Oui, comme vous l'avez évoqué, vous avez déjà expérimenté auparavant ce média vidéo via les MOOCs, n'est-ce pas ? Finalement, j'ai l'impression que vous avez repris un petit peu cette approche-là, mais vous l'avez adaptée pour une session beaucoup plus spécialisée et vraiment pour de formation continue universitaire.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que j'ai découvert le médium de la vidéo à travers les MOOCs, donc ces Massive Open Online Courses. On en a fait une série sur une plateforme en anglais, celle-ci qui est aux États-Unis, et elle a beaucoup de succès. Pour vous dire, à l'instant où je vous parle, peut-être on va atteindre le millionième étudiant qui aura visionné ces cours. Et je reçois énormément de témoignages et qui me font tous extrêmement plaisir parce que ce sont des gens. Ils sont en Inde, ils sont en Chine, ils sont en Afrique, au Canada, partout, et qui me témoignent de leur sympathie, et qui me disent « Votre cours, j'ai beaucoup apprécié, et ça m'a été extrêmement utile. » Des gens qui me disent « J'étais au chômage, grâce à ça, j'ai pu retrouver un emploi. » Et moi, je dis « Voilà, c'est des gens, je ne les rencontrerai jamais. » Ils sont au fin fond du Canada et tout, mais voilà, c'est des gens qui... Ça me fait très plaisir de savoir que cette formation, à travers... ça pourrait pas être possible en présentiel de diffuser comme ça un enseignement. Et donc ça, c'est ce que permet la vidéo.
Et finalement, d'autant plus dans le contexte actuel, il m'est difficile de pas évoquer la pandémie, évidemment, vu ce qu'il se passe depuis plus d'un an. Étant déjà entièrement en ligne, votre session de formation continue s'est facilement adaptée au contexte du basculement à l'enseignement à distance à 100% que beaucoup d'universités à travers le monde ont dû mettre en œuvre. Par contre, vous avez décidé d'aborder au sein de votre formation même, avec une session spéciale Covid, de traiter de l'impact de la pandémie sur les marchés financiers. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ? A-t-on vraiment le recul suffisant pour évaluer cet impact ?
Alors, l'impact de la pandémie sur les marchés financiers, ça m'a interpellé parce que très vite, on a vu, et il y a pile une année, même un peu plus, le 20 mars de l'année dernière, 2020, pour être précis, le jour du printemps, on a vu que les marchés financiers ont commencé à rebondir. Et beaucoup de gens me disaient, mais comment est-ce qu'on peut, mais c'est pas normal, on est en pleine récession, on ne sait pas où on va. Et puis les marchés financiers repartent à la hausse, mais c'est pas normal, quoi. Donc j'ai voulu intégrer toute une réflexion dans mes cours par rapport à cette apparente dualité entre une économie qui va mal et des marchés financiers qui vont bien, pour expliquer que c'est pas parce qu'il y a une déconnexion entre les deux, mais c'est ce que je disais pour revenir à la règle d'or, d'anticiper, d'être tourné vers l'avenir. Les marchés financiers escomptent toujours ce qui va se passer demain. Ils ne reflètent pas le passé, ils anticipent le futur.
Au-delà de l'impact, on parle souvent de l'après et du monde d'après la pandémie. Dans un monde qui évoluait déjà à vitesse grand V d'un point de vue technologique avant la pandémie, cette crise semble avoir accéléré certaines avancées, particulièrement en termes de numérisation. Vous avez parlé de certaines tendances en début de cet entretien. Mais à votre avis, à quoi ressembleront les métiers de la finance dans 5 ou même 10 ans ?
Je pense que la tendance de la numérisation est une tendance lourde, donc elle va se poursuivre. Et on va toujours plus remplacer des tâches professionnelles qui peuvent être remplacées par des machines. Ça va se faire. Je trouverais un peu dommage que cette substitution soit intégrale et que on ait des robots demain qui répondent à nos besoins financiers. Je ne sais pas si le robot qui arrive à capter l'excitation qu'il y a dans notre regard lorsqu'on visite la maison de nos rêves et qu'on se dit secrètement qu'on aimerait l'acheter, si ce robot-là est né, j'espère qu'il ne naîtra jamais, qu'on aura aussi toujours des gens avec qui on va boire des cafés, des banquiers, des conseillers, et puis avec qui on peut discuter investissement.
Alors ça, c'est donc votre souhait et le mien aussi, évidemment. Mais finalement, au vu des innovations actuelles, est-il réaliste de considérer que l'humain continuera longtemps à garder une place centrale dans la maîtrise des marchés financiers, pour revenir à l'intitulé de votre formation? Ou sommes-nous destinés à simplement exécuter les recommandations d'une intelligence artificielle de plus en plus performante?
Oui, là, il faut essayer d'être objectif et de pas... Et de pas faire des vœux pieux, de dire ce qu'on souhaite et d'en faire des visions de l'avenir. Je pense que l'intelligence artificielle, elle est déjà utilisée dans le monde de la finance. Maintenant, moi, je garde quand même un certain scepticisme par rapport à cette utilisation. Dans intelligence artificielle, il y a le mot artificiel et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que nous, quand on fait de la recherche dans les universités, on nous apprend à avoir une méthode sur le plan épistémologique. Il faut avoir une méthode pour que la chose soit scientifique. Et cette méthode, c'est en particulier de commencer par une théorie, de poser des hypothèses et ensuite d'essayer non pas de prouver ces hypothèses, mais essayer de les falsifier. Ça, c'est Popper qui nous a, le philosophe et épistémologue Popper qui nous a donné cette méthode. Qui est pour moi génial et la preuve même de la scientificité du travail, c'est qu'il faut essayer non pas de prouver les hypothèses, mais de les falsifier. Et si on n'y arrive pas, on accepte la théorie comme temporairement vraie. Ici, avec l'intelligence artificielle, il n'y a rien de tout ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des tonnes de données, on les gave, on gave nos ordinateurs qui vont estimer un modèle qui va le mieux coller à l'historique des données pour prévoir l'avenir. Mais si ce modèle, on l'utilise sur base journalière, par exemple, et que demain, la prévision n'est pas bonne, on va complètement réestimer le modèle. Donc, c'est des modèles qui tournent complètement. Et après, quand vous devez dire à votre client que vous utilisez un modèle d'intelligence artificielle pour prédire les marchés et que vous voyez la retraitée ou le retraité qui vous a confié de l'argent, vous ne pouvez juste lui dire, quand il vous dit « oui, mais pourquoi est-ce que vous achetez ce titre ?» vous pouvez juste dire « c'est parce que c'est mon modèle qui le dit, vous n'avez pas d'autre explication. » Donc, je pense que l'intelligence artificielle, il faut l'avoir, mais comme support, il faut garder aussi une approche... basé sur le jugement, basé sur le bon sens et l'utilisation de modèles qui ne changent pas tous les jours.
Voilà, alors nous arrivons tranquillement à la conclusion de notre entretien. Peut-être pour conclure sur votre formation, comment voyez-vous évoluer la session de formation continue maîtrise des marchés financiers? Ou est-ce que avez-vous d'autres projets de formation continue?
Alors, elle se développe bien. Nous avons augmenté le rythme des cadences. En principe, comme les vidéos sont sur une plateforme, elles sont accessibles en tout le temps. Enfin, non pas en principe, en réalité. Mais ce que nous faisons, c'est que nous ouvrons des sessions pour faire en sorte que les étudiants qui suivent le cours prennent le train en même temps. Et on a calculé, donc, c'est 20 heures de vidéo. Une heure de vidéo par semaine. Donc voilà, en 20 semaines, on acquiert, on apprend à maîtriser l'essentiel de la finance. Donc ça a beaucoup de succès. Et on était parti sur un rythme de 2 sessions annuelles. Maintenant, on est à 3 pour répondre à une forte demande.
Et quels seraient vos conseils aux personnes qui seraient intéressées de se former et de travailler dans le domaine de la finance ?
Alors, c'est un domaine qui est en constante évolution. La formation continue, comme son nom le suggère, c'est qu'il faut continuer à se former toute une vie. Et cette nécessité, elle est d'autant plus marquée dans le monde de la finance et en particulier en Suisse. En Suisse, où on a longtemps connu cet oreiller de paresse qui est le secret bancaire, où finalement les employés de banque n'avaient pas grand-chose à faire. L'argent venait en Suisse pratiquement tout seul. Aujourd'hui, cet argent des clients, il faut aller le chercher. Et le besoin d'être à jour, de pouvoir expliquer à son client lorsqu'il vient et dit « Mais Coinbase, là, qui est rentré en bourse hier, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut... » Il faut qu'il ait un avis, il faut qu'il puisse s'exprimer, même si après, il ne va pas acheter du Coinbase ou des cryptos pour le client, mais il faut qu'il puisse avoir un avis et répondre à son client.
Alors, je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser la question que nous posons à chaque invité à la fin de chaque épisode et que nos auditeurs et auditrices apprécient beaucoup. Avez-vous des suggestions de lecture pour aller plus loin ou des lectures qui vous sont particulièrement marquées ou d'autres médias, qu'ils soient articles scientifiques, romans, films
ou autre? Alors, moi, je conseille aux gens qui suivent la formation de compléter chaque fois qu'ils arrivent sur un concept qui les intéresse et tout, bah, simplement... Vous mettez dans Google le terme et puis vous regardez ce qui sort et on trouve comme ça souvent des choses très intéressantes pour compléter le matériel qui est donné dans les cours. Au niveau des... Bon, il y a plein de livres qu'on peut utiliser sous l'angle de comment gérer son épargne, ce qui est un petit peu mon dada et ce que l'objectif principal auquel j'aimerais que les étudiants qui suivent le cours puissent arriver un jour. Et puis, moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « This Time is Different ». Et le sous-titre, c'est « 8 Centuries of Financial Folly ». Moi, il y a quelque chose que j'adore faire dans la finance, c'est je me définis comme un bullologue. Un bullologue, c'est donc un détecteur de bulles. Donc moi, je vous parlais de psychologie au début de cet entretien. Donc ce que j'adore, c'est essayer de détecter à quel moment nous sommes rentrés dans une zone de cupidité excessive ou alors dans une zone de peur excessive. Hein, et je dis toujours, les marchés financiers, c'est comme un balancier entre ces deux mouvements, la cupidité et la peur, fear and greed. Et donc, c'est par rapport à ça, ce livre « This Time is Different » recense toutes les crises financières qu'il y a eu ces 8 derniers siècles. Et ça, c'est une thématique qui m'intéresse particulièrement. Et je suis d'ailleurs en train d'en faire un livre. Et mais je vais, alors, je peux pas vous le recommander.
Alors vous êtes modeste, vous ne nous avez pas recommandé votre propre livre qui a été publié déjà, la Bourse et la Vie, mais vous auriez pu car son concept est tout à fait intéressant et original. Et il fait le lien, si je ne me trompe pas, entre vos deux passions, la finance et la photographie. Pourriez-vous nous en dire un peu plus?
Ah oui. Oui, en fait, j'ai hésité à devenir photographe. C'était après mes études HEC. Donc, j'hésitais entre HEC et HCB. HCB, c'était mon idole dans le monde de la photographie. C'est Henri Cartier-Bresson. Donc, j'ai adoré ses photos. J'ai adoré les photographes humanistes. J'adore le portrait. Et bon, moi, alors, contrairement à Henri Cartier-Bresson, Cartier-Bresson racontait que lui, il aurait aimé pouvoir se confondre avec les murs. Donc lui, il ne parlait jamais aux personnes qu'il photographiait, alors que moi, j'adore le portrait et au contraire, je cherche toujours à rentrer en contact avec les personnes que je photographie. Et puis un jour, je fais de la photo depuis l'âge de 17 ans et j'ai un ami photographe qui m'a dit, mais je disais, bon... Moi, je vais exposer mes photos ou faire un livre un jour, mais il me faudrait une thématique parce que si je mets Michel Girardin photographie, bon, ça va parler à personne. Donc, il m'a dit, mais le thème, il est tout trouvé. Le monde de la finance dans lequel tu travailles, les gérants de hedge funds, les gouverneurs de banques centrales, tout ce monde-là dont on ne sait rien, on ne comprend pas. Et montre-nous, explique-nous. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce projet. J'ai voulu humaniser en fait le monde de la finance, donc j'ai fait des portraits de gens et mon idée c'était de montrer toute la palette qu'il y a dans le monde de l'investissement. Il y a des gérants de hedge funds, il y a des gouverneurs de banques centrales, il y a des analystes financiers, mais il y a aussi des gens qui s'occupent de développement durable, de philanthropie, de vin même. Vous pouvez acheter un fonds de placement qui investit dans le vin ou dans l'art, donc j'ai voulu montrer... toute cette panoplie et humaniser ce monde pour montrer que ce n'est pas un monde de brutes.
Docteur Michel Girardin, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à Michel Raymond pour la technique et à très bientôt sur Lifelong Learning at UNIGE, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève.